Bonjour, je pose une question. Comment annoncer, faire savoir en clinique du fonctionnement mental en dimension possible, si possible, de réalité? À la suite de la publication de notre ouvrage collectif, Les coulisses du divan, coécrit avec Liliane Mittelmann, Laurent Dubost et Paul Besson, une jeune femme a soulevé des questions pertinentes, suscitant une réflexion profonde sur la manière dont nous exprimons notre réalité aux autres et sur la recherche des mots pour transmettre l'existence d'une pensée, qu'on s'entende. Elle a rendu ces questions intelligentes ou intelligibles dans l'expression et l'explicitation possible, à savoir, comment trouvons-nous les mots pour transmettre notre réalité à l'autre? Comment l'autre conçoit-il une interprétation de mon ou de notre message? C'est là que j'ai commencé à énoncer ceci. Cette démarche nécessite une formalisation plus approfondie, une sorte de mise en forme mentale qui va au-delà du potentiel pressenti, mais non complètement formulé. Donc je réponds à nouveau à cette question en vous la publiant. Comment annoncer et faire savoir en grande formation mentale? Je préciserai ce que j'énonce ainsi sur le plan de la parole et de la conscience de l'énoncé. Mon objectif est de rendre tangible cette réalité émergente du discours et donc implicitement de la parole en la comprenant avec intelligence et en bonne maîtrise du langage en formalisant le fonctionnement mental. Il est important d'interpréter cette démarche à la lumière de la publication du livre, de sa diffusion et des podcasts qui ont suivi comme, je dirais, média mental suffisant. Des interviews ont été réalisées avec une qualité sonore, un soin et un montage soigné, le tout dans l'optique d'atteindre des cerveaux receveurs, ce qu'on peut appeler ainsi, ce que je propose d'appeler ainsi. Lorsque nous parlons de cerveau receveur ou de cerveau intéressé, disons, nous nous référons à la capacité du cerveau à créer une image en réponse à une information, donc de la coder à sa façon. Chacun interprète différemment un même message. Ainsi, l'idée est d'explorer le parcours du langage et de réfléchir au cerveau receveur dans ses fonctions, d'en tenir compte tout en prenant en compte la complexité de l'interprétation, du moins potentiel, d'un discours qu'on va recevoir. Il faut pouvoir cartographier mentalement ces ensembles, ces cerveaux receveurs compétents, comprendre leur emplacement et leur lien avec la compréhension, allant au-delà de l'aspect lexical, sans faire une grille, un répertoire. Cette cartographie mentale doit être conscientisée, tenant compte de l'intention du message et de son besoin, afin de créer une réalité propre dans l'esprit du récepteur, locuteur mental potentiel, et constituant comme une enveloppe globale de la chose dans la dimension de l'échange. Il est aussi nécessaire d'attribuer à ce fonctionnement mental une crédibilité, une conscience et une capacité sémantique pour surpasser l'imagination commune. Il faut également surmonter les freins du langage, ses empêchements, ses formes de paresse figée, ainsi que la tentation d'utiliser des euphémismes ou des raccourcis mentaux. Les obstacles à la formulation sont mécaniques et possèdent leur propre réalité dans des formes mentales préétablies ou hyper simplifiées. Et c'est précisément, ou en reflexe automatique, et c'est précisément cela qui devrait inspirer à formuler leur dépassement contre les empreintes du ready-made prêt à l'usage ou les tics de compréhension et de formation mentale. Je reviens à la question posée par cette jeune femme. Je ne souhaite pas en faire un cas clinique et je ne souhaite pas casser les codes du secret médical ou de la déontologie qui est une réalité institutionnelle dans ses fonctionnements et qui codifie les pratiques médicales. Pourtant, il est important de préciser que la personne n'est pas anonyme. Elle possède son identité et son histoire, son besoin, dont la gestion de son problème, de sa personnalité, de sa souffrance, ses dangers et ses symptômes qui s'assemblent en classe mentale. À ne pas confondre avec les catégories et des contours de symptômes. Ainsi, il faut donc tenir compte de l'anonymisation des personnes au sein de leur syndrome même, leur atteinte en quelque sorte qui les isole, qui les anonymise, et leur atteinte, mais encore leurs conditions sociales et environnementales, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler tissu social qui oblige. Tout cela se regroupe en un ensemble qui constitue la personne ou l'énoncé de la personne. Donc, si possible, ajouter à sa vision du monde et dans sa thérapie de l'humanisme, sans excès, mais suffisamment pour que celui-ci puisse exister et trouver de la place dans le monde et les moyens contemporains. Il faut ramener de l'humain, de l'histoire, du particulier, pour aller contre ces unités écrasantes d'hommes uniformisés et statifiés, je dirais massivement quantifiés. Un bel exemple d'humanisme est la bibliothèque de Babel, la bibliothèque universelle pour tous, que je peux citer, celle permettant d'admettre de la diversité. Par ailleurs, le receveur, lui, est conditionné par les formes mentales qu'il a acquises, qu'il reçoit, ses projections, les attitudes, et non seulement celles qu'il conçoit dans la réalité de ses mots, dans sa caverne interne. Parfois, le langage lui-même, y compris pour communiquer, est donc là, est contaminé. Et donc, il va chercher des modèles dans les phrases de l'autre ou dans son langage à lui, à l'autre. En appelant sa compréhension. Et si nous appelions ainsi le mode de réception qui va être conditionné par le mode de conception. Nous commençons à avoir ainsi une idée, image, en termes de réception du fonctionnement mental. C'est ce que je voulais et voudrais élargir et mettre à la disposition de tous. Une forme, une idée et un concept. Qui figure peu à peu une sorte de graphie, de graphe, de figure qu'il est bon de constituer en lui accordant des valeurs de quantité et de qualité. Pour aller dans ce sens, il faut écouter, méditer, prendre conscience de ce que le cerveau humain, dans ses compétences de langage, réalise, accomplit dans la forme et la matière mentale. Il maîtrise les compétences matérielles du support jusqu'à la traduction. J'invite, pour le saisir, à écouter les excellents podcasts du neurologue Laurent Cohen sur France Culture dans la collection Votre cerveau. Ce neurologue chercheur à l'Institut du cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière décortique la machinerie cérébrale de la lecture et du langage. En cet épisode, nous voyons comment le cerveau lié au langage procède par des fonctions, des notions et des éléments intuitifs dans ses fonctionnements et dans son organisation, ce qui, selon moi, relance encore la question de la formalisation dans ses réalités et ses sous-entendus. En conclusion, le livre et les podcasts constituent une forme de communication totale, porteuse d'intention et de sens, en direction du cerveau potentiel receveur. C'est ce qui se passe pour cette jeune femme, ce qui a été pour elle, par ce qui a précédé notre contact. Cette communication, forme de structure potentielle existante et positive, informatrice, bien reçue, même par l'intermédiaire de médiateurs, Berel, créant une scène mentale avec ses propres compétences auditives, me paraît important à signaler. Donc, considérer ainsi le langage, le considérer comme une émission, et une réception dans des unités inversées permet de dépasser les limitations linguistiques et d'explorer des concepts plus profonds allant au-delà du concret. Nous pouvons nous demander par la suite quelle vision cela forme-t-il en termes d'image, de rhétorique et de capacité à imaginer. C'est ce que je vais essayer de développer davantage dans ma prochaine réflexion. Je vous remercie pour votre attention, sachant que le sujet est à la fois important, difficile, un peu dense, peut-être un peu nouveau, et demande évidemment un peu d'intérêt et, si possible, un peu d'attention. Merci.